Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est notre quatrième épisode, épisode numéro 3. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ?
Bonjour à tous.
Qui êtes-vous Hubert ?
Donc moi, Hubert Sablonnière, H. Sablonnière sur les réseaux sociaux. Chez Clever Cloud, je travaille sur tout ce qui est UI, donc notre Graphical User Interface, la console web d'administration, et la CLI, donc la Command Line Interface, notre outil en ligne de commande, les Clever Tools, et puis quelques autres sujets un peu front-end chez nous. Voilà.
Et je suis aussi accompagné de Agathe Boutmy. Bonjour Agathe, qui êtes-vous ?
Bonjour, moi je suis donc Agathe, Nice Girl sur Twitter et principalement support chez Clever. Donc souvent ça va être moi qu'on va voir quand on va avoir des problèmes, des questions.
Voilà, tu es la psy de tous nos users en plus.
Ou des remerciements, n'est-ce pas ?
Aussi.
Et nous avons Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire et donc je suis happening à temps partiel chez Clever Cloud et donc je travaille sur des sujets pour l'instant de virtualisation et puis comme ça fait assez peu de temps, je suis en énorme phase de découverte de toute la face cachée passionnante Clever Cloud.
Yes. Yeah. Alors aujourd'hui, comme nous avons Hubert, nous avons du JavaScript, c'est un peu facile comme transition.
Et ça, ça va commencer par un beau backseat pour moi.
Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, pour tout le monde, tu nous as mis des liens sur TC39. Qu'est-ce que c'est TC39 ? J'imagine que vu que tu as vu plein de trucs sur Deno et tu t'es dit tous les trucs nouveaux qu'il y a dans Deno, ça va arriver dans Node. Et du coup, tu t'es refait une petite série de tous les proposals en cours pour améliorer Node.
Alors, pas exactement. D'ailleurs, cette semaine, on va éviter de parler de Deno. On a déjà beaucoup parlé il y a deux semaines. Il y aura des choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. Non, c'est surtout que là, récemment, il y a eu un événement face-to-face du TC39 et donc il y a eu de l'actu. Donc le TC39, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un comité, un technical committee au ECMA International, qui est l'organisme de standardisation qui a été choisi il y a quasiment un peu moins de 25 ans, enfin quelques années après la création de JavaScript, pour standardiser le langage JavaScript.
Et donc, il n'y avait pas que JS, il y avait d'autres trucs, je crois. Il y avait Axe, il y avait ActionScript, il y avait pas mal de trucs, non ? Il y a longtemps.
C'était après-coup ActionScript.
Ouais, c'est techniquement. Je vais dire des bêtises sur ActionScript. Mais donc, le TC39, depuis toutes ces années, c'est le comité technique qui finalement décide ce qui arrive dans le langage, etc. Et donc, un peu après la sortie d'ECMAScript 5 et surtout après la longue arrivée d'ECMAScript 6 qui a apporté énormément de fonctionnalités, le langage s'est organisé d'une manière un peu différente. Donc maintenant, on a une release tous les ans. Donc ECMAScript avec l'année 2015, 2016, donc là il y a la 2020, ça sort en général à peu près au mois de juin. C'est pas comme Java en mode Java 11, 12, 13 ou je sais plus quoi, au sens où chaque browser, chaque node, Deno, chaque moteur va implémenter les fonctionnalités au fur et à mesure sans se soucier vraiment de est-ce que c'est ECMAScript 2019, 2020, etc. Et donc, en fait, ce comité, la manière dont il ramène des nouvelles fonctionnalités, ça marche par stage. Donc, il y a un stage 0, je crois. Bref, en tout cas, il y a le 1, 2, 3, 4. Et donc, à différentes phases, une spec va évoluer et maturer. Quand elle est en stade 1, on est en discussion, idée, spec. En stade 2... Alors, c'est là où les liens que j'ai mis, je vais les décrire, sont intéressants parce qu'ils détaillent beaucoup plus. Mais en stade 2, il y a un peu plus de... C'est un peu plus mature. Et dès qu'on arrive en 3, il faut qu'il commence à y avoir des implémentations, notamment au moins 2, je crois. Et à partir du moment où c'est en stade 4, ça veut dire qu'au prochain mois de mai-juin, c'est tamponné dans la spec.
Quand tu dis qu'il faut au minimum deux implèmes, c'est deux implèmes JS et ensuite...
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément une implème dans le moteur de Safari et une implème dans le moteur de Firefox, par exemple. Ça peut aussi être des implèmes dans Babel, qui est le transpilateur JavaScript version X vers JavaScript version un peu moins moderne. Ça peut être des implèmes dans ce genre-là pour qu'il y ait des gens qui puissent utiliser ces fonctionnalités et vraiment voir sur le terrain si ça résout des vrais problèmes et si c'est trop compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui vont super vite, qui arrivent direct en stade 1 ou 2 et qui sont tamponnées et présentes dans les moteurs l'année qui suit, des trucs assez simples. Et à l'inverse, on a des features comme les décorateurs qui ont été proposés via l'équipe TypeScript en 2014 et qui peinent à sortir du stade 2 parce qu'il y a des gros soucis et questionnements autour des implémentations.
Ils n'ont pas été tamponnés et double tamponnés.
Et la vitesse, ça ne vient pas du fait que, par exemple, c'est les browsers qui soumettent directement parce qu'ils ont déjà l'implém en sous le code.
Eh bien, contrairement aux API des navigateurs, tu sais, genre ajouter des service workers, ajouter le clipboard, etc. T'as moins ça. Il y a moins on a implémenté un truc dans le langage et qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait le rajouter. Ça passe en fait, ça a une évolution au niveau des fonctionnalités que je trouve beaucoup plus saine. C'est qu'il y a forcément une spec, un brouillon au TC39. Il faut des champions qui poussent la spec pour que ça avance et la faire évoluer au fur et à mesure des meetings et des discussions. Et ensuite, on a des implèmes. Mais c'est beaucoup plus rare d'avoir le phénomène que tu décris sur le langage par rapport aux API du browser. Et donc, dans les show notes, ce que je vous ai mis, c'est le projet GitHub TC39/proposals, qui est vachement intéressant, où vous avez la liste de toutes les propositions en cours par stage. Donc là, on voit les stage 4 qui viennent de paraître en ECMAScript 2020. D'ailleurs, elles ont été bougées, je crois. On voit les stage 3 qui sont quasiment terminés. Et puis, en stage 0 et 1, il y a des propositions assez intéressantes et assez marrantes. Dans les show notes, je mettrai plein de liens. On peut en citer peut-être deux. Moi, il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent sur tout ce qui est internationalisation. Internationaliser des durées... genre tu passes 450 minutes et tu veux l'avoir en heure, minute, seconde, etc. Conversion d'unités, tu donnes un nombre de centimètres et ça te le donne en pied, en pouce, suivant le... etc.
Il y aura la monnaie aussi ou...
Ouais, alors la monnaie, il y a déjà c'est déjà implémenté, déjà standardisé. On l'utilise dans nos composants chez Clever. Il y a un truc pas mal aussi qui arrive, c'est les records et les tuples. Vraiment une syntaxe et un système pour apporter beaucoup plus d'immutabilité à JavaScript. Donc il y a plein de choses à surveiller, et puis chacun a ses petits préférés, c'est intéressant. Donc je vous ai mis le GitHub de ces proposals et un panel qui a eu lieu à je crois que c'était JSConf, je sais plus trop, de plusieurs personnes qui font partie de ce comité et qui sont interviewées par Cassidy Williams, et c'est hyper intéressant. Donc on comprend comment fonctionnent toutes ces évolutions. Les questions autour de ça sont vachement intéressantes. Donc, je vous conseille de voir ce panel, ça dure 30-40 minutes, et puis d'aller fouiller un peu dans les proposals qui arrivent, parce que c'est toujours assez marrant.
Bon, du coup, tes préférés, toi, c'est internationalisation et
Disons que j'aimerais bien. Il y a aussi une proposition qui s'appelle Temporal, qui va ramener un peu tout ce qui manque au niveau des API de date. Parce que l'API de date de JavaScript, c'est une copie de l'API de Java qui a été faite au tout début. Et si vous faites du... Oui, voilà, oui, je parle de l'API de Java de 95 et quelques, qui est une API toute pourrie, faut le dire. Enfin, en tout cas, elle est bien dépassée. Et donc, on charge tous des Moment.js, des Luxon, etc. Donc, j'ai hâte que cette API, qui est assez bas niveau, mais arrive, qu'on charge de moins en moins de choses.
Yes.
Ça, bah, après, je vais pas...
ça comprend des quoi, des comparaisons de dates, des choses comme ça, ou des shifts,
des comparaisons, des shifts, des... Alors au niveau du formatage, on a déjà beaucoup de choses qui sont arrivées plutôt via toute la branche INTL, internationalisation du langage, et donc déjà en natif, et c'est, ça vient d'arriver dans Safari, en tout cas c'est quasi supporté partout, tu peux formater une date avec le format que tu veux en natif, sans charger de lib. Ça, c'est assez puissant. Et puis surtout, quand tu es via un browser, tu n'as plus à charger des milliers de langues parce qu'elles font déjà partie du navigateur en général. Et maintenant, Node ship quasiment tout ce qu'il faut aussi, alors qu'avant, souvent, ils packageaient que la version anglaise, un truc dans le genre. Donc, non, il y a des trucs sur les itérateurs qui arrivent, des nouvelles méthodes qui arrivent sur les tableaux, sur les sets, rien que le fait de pouvoir sur un set demander l'intersection entre deux sets. J'ai un set avec, je crois, moi, une collection de 10 trucs et une autre collection de 10 trucs. Donne-moi ceux qui sont en commun ou ceux qui sont. Enfin voilà, tous ces trucs-là, on avait tendance à charger l'Odash. Ça, en tout cas, c'est proposé. Est-ce que ça arrivera? On verra, mais il y a de grandes chances. Donc, des choses vachement intéressantes, et si vous faites du JavaScript, que ce soit browser ou côté serveur, c'est vraiment le petit truc à surveiller parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Et si vous avez les compétences et la curiosité et le temps, faites des feedbacks et dites « Ah ben non, si la syntaxe est comme ça, moi ça m'arrange pas, etc. »
Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a pas mal de services back-end chez Clever pour l'orchestration des VM et tout ça, qui sont écrits en JavaScript, alors qu'ils sont peut-être en train d'être écrits en Rust, mais qui ont été écrits en JavaScript pendant des années. Voilà, on ne fait pas que du JS Browser
chez Clever. Et pour ma curiosité de non-connaissant sur Node.js, justement, le suivi par rapport à ECMA et aux normes, de ce point de vue-là, côté Node.js, c'est assez bon ou c'est...
Ouais, en fait, donc Node.js est basé sur le moteur JavaScript de Chrome, V8, et là-dessus, ils sont assez à jour. Enfin, il ne faut pas se leurrer, entre les trois moteurs JavaScript du moment, c'est SpiderMonkey chez Firefox, JavaScript Core chez Safari et V8 chez Chrome, enfin chez Google. Celui qui a le plus de ressources humaines et argent et temps, c'est V8, et c'est souvent celui qui voit les nouvelles fonctionnalités arriver en premier. Quoique, tu vois, par exemple, BigInt, le fait d'avoir des vrais integers pour faire de l'argent, parce que dès que tu commences à faire une application de monnaie avec des nombres flottants I3E754, là, c'est compliqué.
La virgule peut faire mal. Ouais.
C'est ça, c'est arrivé assez vite chez Safari. Après, bon, chez Safari, quand ça arrive dans WebKit et quand ça arrive vraiment dans Safari, ça va deux fois par an, ce qui est un peu plus... Mais non, chez Node, ça bouge très vite. Et du coup, bah, parlons de Deno. Deno est basé aussi sur V8. Et donc, ils ont les mêmes choses qui arrivent au fur et à mesure. Voilà.
On avait dit qu'on n'en parlait plus. Mais bon, transition toute trouvée pour un autre lien que tu as mis qui parle de SpiderMonkey. Alors moi, j'étais persuadé que maintenant, tout le monde faisait du V8. Il y avait peut-être Rhino qui traînait chez les gens qui exécutent du JavaScript dans de la JVM côté serveur, mais je ne me rendais pas compte à quel point le développement de SpiderMonkey était actif ou pas.
Alors, l'article que j'ai posté, c'est A New Regex Engine in SpiderMonkey. Donc, c'est un article du blog technique de Mozilla. Donc, SpiderMonkey, c'est le moteur JavaScript de Mozilla. A contrario de WebKit, qui est très utilisé en embarqué, par exemple, il y a pas mal de UI de la PS4, derrière, c'est un WebKit embarqué, c'est des pages web. Chrome, bah, on connaît tous les multiples réutilisations du moteur, que ce soit chez Brave, chez Opera, chez Edge. Firefox, Gecko, le moteur qui est en dessous, est rarement packagé et réutilisé, contrairement à ses deux copains. Donc, c'est vrai qu'on le voit moins réutilisé. Et son moteur JavaScript, SpiderMonkey, a changé de moteur de regex en 2014, donc dans ce qu'il décrit dans l'article, pour utiliser le moteur de regex créé par Google dans V8. Alors, ça s'appelle iRegexp, avec deux R. Et donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient fait un fork. Ils ont copié-collé le code et puis ils l'ont branché dans comme ils pouvaient dans SpiderMonkey. Et donc, bah, c'était un peu problématique parce que dès que le moteur de regex évoluait, ils devaient repatcher plein de choses, sachant qu'il y a plusieurs nouveautés qui sont arrivées dans le langage récemment, que ce soit sur les groupes nommés. Il y a des nouveaux flags qui sont arrivés aussi. Et du coup, c'était un peu compliqué pour eux. Et donc, ce qu'ils viennent de faire là très récemment et qu'ils ont expliqué dans cet article de blog, c'est qu'ils ont fait un shim, une couche d'abstraction, si on peut traduire ça comme ça. Et ce qui fait que maintenant, ils utilisent iRegexp, le moteur de regex de V8, avec juste une petite couche, mais ils utilisent l'upstream, ils ne le forquent plus, ils ont plus à maintenir des patchs ou autres, et ils l'utilisent directement, entre guillemets, avec une petite couche par-dessus. Je trouvais ça intéressant, et en même temps, ça veut dire que bah, demain, s'il y a un bug dans le moteur de regex, bah, maintenant, il y est dans deux implèmes. Et on a la même chose, il y a beaucoup d'API de stockage dans le browser, le local storage, IndexedDB, etc., qui sont en fait chez quasi tous les browsers backés par du SQLite derrière. Donc, c'est marrant parce qu'on a trois moteurs, mais finalement, de plus en plus, ils sont en train de réutiliser les mêmes choses en dessous. Voilà. Donc, l'article est assez intéressant.
Donc, sur une faille de sécu, les trois sont plantés.
C'est ça. Après, en général, les regex, les failles de sécu, c'est du DDoS où on fait des regex qui ne rendent jamais la main, etc. Ça arrive encore récemment.
Pour info, dans mon souvenir, SpiderMonkey était embarqué dans CouchDB, je crois.
C'est possible. Pas le souvenir,
hein, pour le templating et tout ça.
Il y a des chances, ça me dit vaguement quelque chose. Je t'avoue que c'était pas les choses qu'on mettait en avant quand on parlait de Couchbase ou de CouchDB. Surtout que ça a dû être écrit chez Couchbase assez rapidement.
C'est vraiment pour la partie templating. Ouais. Pas pour le reste. Bon, ça fonctionne relativement bien, hein, mais c'est un des souvenirs d'embedded que j'avais.
Je rebondis, tu parlais de Rhino, Laurent, qui était une implème de JavaScript dans Java. Là, vous... Pierre-Antoine ou autre, vous saurez peut-être en dire plus que moi, mais de ce que je sais, ça n'est plus maintenu. Je ne sais même pas si c'est encore packagé.
Non, ça date. Hein. Ça a été remplacé par celui par qui était fourni par Oracle par un moment, mais qui a été, je crois, désactivé depuis dans les versions récentes.
Par contre, maintenant, il y a tout un truc autour... J'ai vu une présentation très récemment, tout un truc autour de GraalVM avec JavaScript, si je ne dis pas de bêtises.
C'était Nash Horn.
C'était Nashorn qui avait pris le relais.
Il y a eu Rhino, Nashorn, mais qui ensuite aussi a été un peu délaissé. Et là, récemment, j'ai vu quelqu'un faire des benchmarks de folie avec du JavaScript dans du GraalVM. Voilà.
Oui, je pense qu'ils ont, dû shifter les
filles. En fait,
Nashorn
était maintenu par Oracle. Et comme Oracle est full balle sur GraalVM, ça paraît logique qu'ils soient tous partis là-dedans.
Yes.
Sans transition, lien suivant, les outils de l'écosystème JS écrits pas en JS.
Ouais.
Là, on parlait de. Alors, Rhino, c'était une implème full Java du runtime JS. Et là, on commence à voir des outils arriver. Un bundler en Go, un transpiler en Rust, un lexer en.
Avant que tu vendes du rêve, moi, je vais parler de cauchemar autour de ça. J'ai des souvenirs. Alors, je suis pas un gros utilisateur de tout ce qui est Node. J'ai filé un peu de support à des gens qui en utilisent et tout ça, mais plus sur l'installation et ainsi de suite. Et alors, quand tu es en environnement d'entreprise et que tu n'as pas tous les droits, que tu n'es pas sur ton truc où tu as tous les droits, les modules qui essayent à la volée de compiler un truc en C++, en téléchargeant des trucs de GitHub au moment où tu les installes, merci. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Il faut installer un GCC++ au mec pour pouvoir utiliser SASS. Bof.
Tu veux qu'on parle de notre Jeep après?
D'accord, ça me rassure, je suis pas le seul alors.
C'est un des points où le concurrent de Node qu'on ne citera pas améliore les choses. Encore dans le test.
Qu'on ne citera plus, mais
oui, alors en fait, c'est intéressant, il y a une trend un peu en ce moment. Donc, on a toute la phase où JavaScript ça a commencé à se professionnaliser. Je ne vais pas donner de date, mais en tout cas, ça a énormément évolué. Et en fait, c'est vrai que l'essentiel du tooling, même quand vous faites que du navigateur, du JavaScript que pour du navigateur, l'essentiel du tooling est fait en JS et tourne sur les postes des gens et des CI et autres avec Node.js. Donc, on peut citer des bundlers comme Webpack ou Rollup, des minifiers, des compilateurs comme TypeScript, des linters comme ESLint, etc. En fait, ce qu'on remarque, c'est que sur certains gros projets, ces builds sont assez longs, prennent pas mal de RAM. Alors, on pourra discuter de est-ce que c'est à cause du côté monothreadé de Node, est-ce que c'est à cause du côté interprété du langage JavaScript, est-ce que c'est parce que c'est mal implémenté. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup autour du côté interprété et de la limite de performance du langage. Et donc, il y a des besoins, surtout ce tooling, d'être un peu plus performant et plus rapide. Et donc là, depuis, alors j'ai pas été revoir depuis quand datent ces projets, mais on les voit fleurir depuis quelques mois un peu partout. Donc j'en ai mis trois dans les liens. Il y a ESBuild, qui est un bundler en Go, qui affiche des gains de performance par rapport à Webpack ou Rollup, qui sont juste indécents en fait. Enfin, c'est 50 à 100 fois plus rapide. Ça devient limite sur des petits trucs instantanés et c'est assez prometteur et intéressant. On a un transpiler qui lui a été plus codé dans l'esprit de remplacer, de concurrencer Babel, qui s'appelle SWC. Alors celui-là, il est codé en Rust et la toute dernière actualité, c'est qu'hier ils ont publié que au-delà d'être capable de transpiler du JavaScript très moderne en JavaScript plus vieux ou du TypeScript en JavaScript, ils ont rajouté une feature de bundler aussi et ils comptent un peu essayer de supporter des plugins de Webpack. Ça, je sais pas trop ce que ça va donner et j'ai hâte avec mon collègue Geoffroy qu'on essaye de lancer SWC dans du WebAssembly. Parce que pour l'instant, c'est un peu ce que décrivait Pierre-Antoine. Si vous installez SWC via Node, ça télécharge des pré-builds Mac, Linux, Windows pour votre machine. Si vous avez une archi qui va pas, peut-être qu'il le build, je sais pas. Et le tout dernier qui est un peu plus un peu moins discuté et important, c'est ES Module Lexer, parce que en fait rarement l'utilisateur final a besoin de ça, c'est plus utilisé par des outils dev que par des utilisateurs finaux. Et ES Module Lexer, lui, est carrément codé en C, quoi. J'ai envie de dire à l'ancienne, mais en fait... Et donc, lui va scanner plein de fichiers pour aller voir les imports et trouver quel mode... Ça peut permettre de faire un graphe de dépendance de Node. Donc, voilà, c'est une trend qui est en ce moment, une tendance qui est en ce moment d'avoir des outils pour l'écosystème JS TypeScript qui sont pas codés et qui sont en JavaScript ou en TypeScript et qui sont très performants. Voilà.
Est-ce qu'ils vont écrire LeftPad en Rust?
Non, mais ouais, peut-être.
peut-être pas.
Similaire aux tendances qu'il y a eu historiquement pour pas mal de modules Python aussi qui étaient réécrits en natif. Pour des problèmes de performance, même si c'est après la comparaison s'arrête là parce que c'est pas le même fonctionnement dans les deux, mais c'est interprété aussi, quoi.
Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'on a fait l'inverse pour notre usage de Git dans Clever Tools et dans le browser, où avant on était sur un binding Git sur une libc qui fallait builder avec notre JIP et c'était bien la misère pour le package, genre c'était nul, et là on utilise Isomorphic Git qui est du Git full JS pour le coup.
Ouais, et c'est marrant parce que on pourrait se demander aujourd'hui si une implém Rust avec une compilation WASM serait plus portable et intéressante, que ce soit pour le browser, Node ou Deno. Mais ce qui est sûr, c'est que pour sortir de ce cauchemar de Node.jp, de libgit qui est codé en C, les bindings qui marchent pas toujours bien, et puis nous on a besoin de packager notre ligne de commande pour Linux, Mac et Windows, ouais, on est assez content d'être reparti sur une imprime JavaScript, même si elle est assez jeune.
Ah, ça apporte quand même une forme de portabilité, quoi.
Ouais, c'est ça.
Yes. Article suivant, tu nous as posté un truc de CSS. Le CSS, pour moi, c'est un truc d'ingénieur, je n'y comprends rien, c'est trop compliqué.
Ah non, c'est cool,
pas gentil pour les ingénieurs.
C'est cool, cet article là.
Alors, là-dessus, je ne vais pas m'éterniser parce qu'en fait, il faut voir l'article pour se rendre compte, mais c'est un article sur les z-index. Et donc, qui n'a jamais mis un z-index 3 millions juste pour régler un problème en mode très rapide? C'est-à-dire que tout le monde l'a fait.
Sans rien faire récemment.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des règles assez complexes sur les z-index à partir du moment où on commence à jouer sur les positions, sur les floats, sur les trucs comme ça.
Et c'est ça, c'est surtout la composition avec la position relative ou absolue qui est en général
ça explique pas mal du tout. Moi qui suis un peu allergique au CSS, j'ai bien compris pour le coup. C'est interactif en plus, c'est pas mal.
Ouais, voilà, en fait, ça qui est ce que disait Agathe, c'est top, c'est que l'article est avec des exemples interactifs, donc on peut changer les z-index des exemples en direct pour voir ce que ça fait. Et moi, ça parle vachement à mon cerveau, ce genre de truc un peu interactif. Donc je vous le conseille. Dès que vous commencez à vous battre avec du z-index, je vous avoue, j'avais déjà vu un article dans ce genre-là il y a 4-5 ans, je m'étais dit j'avais tout compris et en fait, il faut pratiquer parce que c'est vraiment des règles de gestion, pas simple.
Ouais, il faut y revenir régulièrement, je pense, à cet article pour bien l'incorporer. Parce que...
c'est ça.
Après, c'est, j'imagine, une question de pratique, c'est vrai qu'on n'écrit pas forcément de la CSS tous les jours, donc, enfin, moi, dans mon métier.
Bah, moi, j'en écris tous les jours, mais tu joues pas avec des problèmes de z-index tous les jours non plus, en fait. Je sais pas.
Lien suivant, on change un petit peu de typologie. Là, on va parler de Chrome, pas forcément de code. Moi, ça m'a choqué. Je tiens à le préciser.
J'ai pas compris, en fait, moi, la prémisse du problème.
Alors, en fait... donc, on parle… Alors, ce n'est pas vraiment un article. Je vous ai posté un tweet de Jack Archibald, qui est DevRel chez Google, et une vidéo avec Jack Archibald et Surma, qui sont tous les deux DevRel chez Google, autour du changement d'affichage de l'URL dans la barre d'adresse de Chrome. Donc, c'est un changement qui est très polémique. Ça fait des années qu'ils veulent changer un peu comment ça… c'est affiché. Et donc là, ils relancent un peu les expérimentations avec des flags dans Chrome. Et il y a des chances qu'au fur et à mesure des releases, que ça arrive en stable. Donc la question de base, c'est. Le propos de base, et je vous conseille vraiment la vidéo parce qu'elle est assez intéressante et elle décrit le problème. Mais en gros, dans une URL, il y a plusieurs choses. Il y a le scheme, le domaine, le port, le sous-domaine, le pass, la query string, etc. Il y a énormément de sites de phishing qui abusent de la complexité des URL et de la faible connaissance de cette complexité par les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, quoi. Mm-hmm. Et donc, tu as beaucoup de, je sais pas moi, banque respectable, point officiel, point nanana, point je suis un méchant.com, tu vois. Et en fait, pour peu que le site soit en HTTPS, c'est assez confusant. Il y a beaucoup de sites de phishing qui se basent là-dessus. Et donc, le postulat de Chrome, enfin des équipes de Google, c'est de dire les gens ne comprennent pas les URL, c'est trop compliqué, qui est un débat à avoir, en fait, parce que j'ai tendance à être d'accord avec ça, et en même temps, je suis un power user et je veux des vrais URL. Donc, c'est pas simple. Mais ce qu'ils proposent, c'est de n'afficher que le ETLD plus 1 dans la barre d'adresse de base. Je vais expliquer après. Ce qui est en fait le comportement par défaut de Safari depuis plusieurs mois, années. Donc, c'est assez marrant parce que tout le monde dit « Ah, Google !» Ouais, mais Safari fait pareil depuis des années. Ah oui, mais
le browser est déployé beaucoup plus que celui de Safari. Même sur Mac, voilà. Je ne sais pas si tout le monde utilise vraiment Safari, en fait.
Ouais, en tout cas, sur iOS, les gens ont pas le choix.
Oui, sur iOS, c'est pas facile.
Il n'y a pas d'autres navigateurs disponibles sur iOS.
Si, en fait, la plupart des gens ne savent pas.
Et puis, ils sont, Enfin, voilà, c'est un autre
débat.
Petit aparté sur Hey, dont on parlera tout à l'heure, mais effectivement, tu as Chrome qui gère les PWA et du coup, tu n'es pas obligé de te taper le Live Store,
ouais. A priori. Et donc, un ETLD plus one, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu achètes un nom de domaine, tu vas acheter blablabla point quelque chose. Sauf qu'en fait, c'est pas tout le temps point quelque chose avec 2, 3, 4 caractères. L'exemple qu'on connaît le plus, c'est .co.uk, où en fait, le top level domain a deux parties. Et donc, la vraie sémantique, c'est qu'un TLD, un top level domain, c'est la dernière chose qui a après le dernier point. .com, .fr, .net, .org. Quand on passe à un truc qui a deux parties, on parle de ETLD. Donc, c'est Effective Top Level Domain. Donc, .co.uk, c'est un ETLD. Sauf qu'en fait, et ça, je l'avais un peu montré dans un talk que j'ai fait sur les cookies, pour qu'un site soit différencié d'un autre site, on va se dire que foo.com et bar.com, ce n'est pas les mêmes sites. Tout le monde est d'accord. Donc, ils ne partagent pas leurs cookies. Foo.co.uk, bar.co.uk, c'est pas les mêmes sites, on comprend. Sauf qu'en fait, on a des exemples, par exemple, foo.github.io et bar.github.io, c'est des sites différents parce qu'ils appartiennent pas aux mêmes utilisateurs. Et donc, en fait, les navigateurs, pour séparer les cookies et pour séparer pas mal d'autres choses, en fait, se basent pas que sur une liste de ETLD. Ils n'ont pas juste une liste avec .com, .fr, .co.uk, etc. Ils ont une liste avec tous ces trucs-là, plus un ensemble de ce qu'on appelle des publics suffixes, dont github.io, dont alors je ne sais plus comment il s'appelle, chez AWS, dès que vous avez des domaines un peu temporaires. Et donc forcément, bah, nous, chez Clever, on a des domaines temporaires dans ce genre-là. On a cleverapps.io qui est dans cette liste. Et donc, dans la vidéo dont je partage l'article de Jake et Sorma, ils reviennent là-dessus et ils disent dans cette liste, il y a quasiment 9000 lignes. Donc, en fait, quand tu regardes une URL pour savoir si c'est sécurisé, si c'est le même site, personne n'a dans la tête cette liste de 9000 suffixes qui soient des ETLD ou des… Enfin, bref. Et donc, ce que propose Google, c'est d'afficher uniquement le ETLD plus one, donc… En gros, votre nom de domaine, point, le public suffixe. Et donc, bah, je sais pas moi, monsite.com, slash quelque chose, avec un sous-domaine avant, ils afficheront que monsite.com. Et là où c'est, je précise bien, ETLD plus one, c'est que si vous avez, je sais pas moi, monsite.super.cleverapps.io, ça n'affichera pas juste cleverapps.io, ça affichera bien super.cleverapps.io, le ETLD plus one. Donc, ça prend bien en compte toute cette complexité. C'est très comment dire, problématique. Enfin, ça porte à beaucoup de débats, ce changement, parce que Google est connu via le projet AMP pour avoir des positions un peu limites sur tout ce qui est URL, etc. Et en même temps, c'est fait dans un besoin d'améliorer la sécurité des gens, de monsieur et madame tout le monde. Déjà que c'est compliqué à expliquer, le cadenas, le HTTPS. Maintenant, on est passé d'un mode où on n'affiche plus HTTPS, on n'affiche que HTTP avec un non-secure. Donc, voilà, c'est assez controversé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va voir ce que ça va donner. Notez que Safari fait la même chose. Et que actuellement dans Firefox, si vous regardez bien, le ETLD plus one est noir et tout le reste de l'URL est gris. Ce qui est, je trouve, une proposition qui est un peu entre les deux et qui est assez intéressante. Et il y a plusieurs personnes qui ont reproché à Google de ne pas avoir été vers cette étape rien que dans un premier temps et de vouloir tout de suite target un changement assez, assez radical. Dans la vidéo, vas-y, Léa.
Et j'imagine que de toute façon, ce sera quand même possible d'accéder à l'URL complète.
Voilà, en fait, dès que tu mets le focus dans la barre, tu as l'URL complète que tu pourras copier-coller. Donc, on va dire que dans l'idée, ça répond aux besoins des power users et des besoins de monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est un changement tellement radical que ça reste très controversé.
Ce que je trouve. J'ai du mal à saisir l'argument de la sécurité sur l'histoire parce que globalement, les gens qui vont se faire. vu qu'ils seront victimes de phishing ou de trucs comme ça, ils auront un lien où tu ne vois pas l'URL dans un mail. Ils auront, tu vois, ils vont cliquer sur, de toute manière sur le lien complet et ils ne tapent jamais la barre d'URL. Pour eux, c'est une extension de moteur de recherche pour la plupart des gens.
C'est vrai que la plupart du temps,
c'est pour ils ne savent même pas. Enfin, moi, la plupart des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une URL, quand tu leur dis bah, tape voir dans la barre d'URL le nom du site, ils disent c'est quoi la barre d'URL et ils vont dans Google ou dans un moteur de recherche, ils cherchent le site, quoi. Et c'est ouais. là que ça devient un peu absurde en fait. C'est parce que
bah, en fait,
Google ils voient la barre d'URL comme une extension de leur moteur de recherche. D'ailleurs, je viens de ouais. mentionner en disant que les gens vont chercher.
C'est, ouais, c'est alors ce qu'ils mettent en avant, c'est que juste à côté du cadenas, il sera directement écrit mec qui fait du phishing.com, tu vois. Il sera plus écrit ma banque quelque chose, point bidule, point machin. Et ils font énormément de user research.
Même quand c'est un. Donc, enfin, par la question, du coup, c'est parce que tu as quand même des noms de domaine parfois qui se rapprochent quand même du nom de domaine que c'est
oui.
affiché.
Alors ça.
Et ça ne résoudra pas ce problème.
Non, non. Par contre, et là, en fait, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Elle dure 20 minutes, qu'ils abordent tous les questionnements que vous posez. Et ils abordent aussi le fameux détail des sets de caractères qui ressemblent à d'autres lettres. Mmh. Et donc, on a eu l'exemple de je ne sais plus quel caractère qui ressemble à un G. Et quelqu'un avait déposé le domaine qui ressemble à Google, mais qui
n'est pas le I majuscule et le L, hein, tout simplement.
C'est ça. Ouais, alors ça, ouais, ça dépend des polices en plus. Mais ils disent bien qu'à partir du moment où une URL mélange deux sets de caractères, ils mettent les fameux punicodes là avec les pourcents, je ne sais pas quoi. Donc, je vous conseille vraiment cette vidéo. C'est assez intéressant à voir ce qu'ils vont faire.
Ouais, donc ça, c'est, pour l'instant, c'est que Chrome et les liens que tu as mis après, c'est sur la diversité dans les navigateurs. Et c'est vrai que le moteur de Chrome est utilisé dans 99%. Enfin, en gros, il n'y a plus que Firefox maintenant, je crois, qui ne l'utilise pas.
Ça fait rien.
Et Lynx.
Alors, en fait, ouais, on va dire que depuis que Edge a décidé de ne plus développer son propre moteur de rendu, son propre moteur JavaScript, etc., et qu'ils sont passés à Chromium.
Alors juste Edge, pour les gens qui ne se rappellent pas et les gros nuls de Microsoft comme moi, c'est la nouvelle version d'Internet Explorer.
Voilà, c'est le successeur d'Internet Explorer.
Baptisé Edge Chromium. Parce qu'il y avait un Edge qui n'était pas avec Chromium dedans.
Oui, il y a eu une phase de Edge avec un nouveau moteur de rendu, etc. Mais ils ont décidé d'arrêter d'investir là-dedans. C'est assez intéressant d'ailleurs de se dire qu'une boîte comme Microsoft, enfin, je veux dire, ils ont un peu d'argent, j'imagine, se disent que c'est pas rentable et trop compliqué d'investir là-dedans.
Ah, c'est peut-être parce que c'est plus le cloud. Hein. Tu sais, Microsoft, maintenant, c'est que le cloud.
C'est vrai. En tout cas, les liens que je vous ai partagés vont un peu tous ensemble. C'est des articles de blog qui se répondent entre Jeremy Keith qui parle de il faut défendre la diversité des moteurs de rendu des browsers et il en faut plusieurs. Il y a une petite analogie avec quand on a un seul parti politique, c'est pas bien, et quand on en a trop, c'est pas bien non plus. Et il faut trouver un juste milieu, mais il en faut pas qu'un. On a Brian Cardell qui bosse chez Igalia qui lui a répondu et qui essaye de changer le débat, de parler d'une diversité des moteurs de rendu un peu dogmatique à parler plus de la santé de l'écosystème. Et contrairement à l'époque Netscape IE, là on n'a que des moteurs de rendu et des, on va dire que les couches qu'il y a sous le navigateur sont toutes open source, pour certaines sont réutilisées par plusieurs grosses boîtes et acteurs. Il y a beaucoup plus de collaboration qu'avant, beaucoup plus de collaboration sur les standards. Donc son article revient là-dessus et je vous ai mis un troisième article qui rebondit aussi sur ça. Donc ces trois articles se répondent sur ce questionnement de: est-ce que depuis que Edge est passé à Chromium, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est bien? Pas bien. Et donc, une fois que vous avez lu ces trois articles, hyper intéressants, parce que je pense que c'est vraiment un questionnement très intéressant en ce moment, quand on voit les comportements d'Apple, où ils investissent peut-être pas assez par rapport à l'argent sur lequel ils sont assis dans le web, quand on voit les comportements très... ah bah j'ai shippé un truc dans Chrome, c'est bon, tout le monde est d'accord de Google sur certaines specs. C'est un sujet auquel il faut s'intéresser. Et donc pour boucler la boucle, il y a, je vous ai mis un podcast, alors il est sur YouTube, mais c'est audio only, justement de Jeremy Keith, Brian Cardle et Stuart Langridge, qui discutent de tout ce problème-là, de la diversité des browsers. Et comme c'est tous les trois des vieux de la vieille, bah, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent des différentes guerres des browsers. Et c'est vraiment, vraiment intéressant d'analyser ce domaine, comment il évolue et d'où viendra demain le quatrième. Parce qu'il y en aura forcément un nouveau un jour. On peut faire l'analogie en France avec, on avait trois opérateurs historiques, on a Free qui est arrivé, ça a rebougé les autres, mais en fait, peut-être qu'on n'a plus besoin de... Enfin, l'analogie des partis politiques est intéressante aussi.
Ouais, après, donc, c'est rigolo cette analogie parce que les nouveaux opérateurs, c'est des opérateurs virtuels basés sur les couches existantes.
C'est des exactement pareil. Tu vois, Brave vient rajouter plein de choses, mais ils sont incapables d'investir pour faire tout un moteur de rendu et un moteur JavaScript. Donc, ils sont basés sur le premier.
Rattraper toutes les couches d'infra et les refaire, c'est... Alors, déjà, est-ce que ça a un intérêt? Et puis, c'est compliqué, quoi.
Ouais.
Il y aura sans doute un prochain moteur qui viendra d'Asie à un moment ou un autre, je pense, en termes
d'investissement. Je pense, ouais. Et ce qui est bien, je termine avec ça, dans la vidéo, il parle aussi de moteurs dont on oublie souvent l'existence, qui sont pure print. Par exemple, Amazon a son propre moteur de rendu au niveau des bouquins et des e-books, etc. Et il y a Prince XML aussi, je crois que c'est le nom, qui est un moteur de rendu vraiment dédié au print. Et donc, on a des moteurs qui comprennent l'HTML, mais avec des fonctionnalités qui sont très peu développées dans les trois les plus connus. Voilà, ils parlent aussi de ça, et ça, je trouvais ça intéressant.
Et du coup, en parlant de diversité, est-ce qu'il y avait de la diversité dans les clients mail? Et pendant des années, globalement, c'était Gmail et Thunderbird pour les courageux. Et mute pour les gens qui aiment le terminal.
Et il y en a un qui va dire inbox.
Pas mal Outlook aussi, non, pour les gens qui sont utilisateurs lambda souvent.
Il y a beaucoup d'Outlook.
Ouais, beaucoup d'Outlook. Et effectivement, RIP.
Ouais, alors j'ai mis un lien de Jason Fried, je ne sais jamais comment on dit.
Jason.
Qui donc co-créateur de 37 Signals, Basecamp, etc. Et qui a lancé avec ses collègues de Basecamp un nouveau... alors, c'est pas un client mail, hein, c'est vraiment plus que ça. C'est dans le sens où...
C'est comme Proton. La...
Ouais, voilà. C'est vraiment une boîte mail, un service mail entier qui s'appelle Hey. Alors, la vidéo est intéressante. Par contre, moi, les 10 premières minutes, j'ai vraiment l'impression qu'il a réinventé l'email. Oh, this is a... Enfin, c'est très à l'américaine. It's a revolution.
Amazing.
Genre, non, on fait pas ça, on fait ça. Et, genre, j'ai plus d'exemple en tête, mais t'as envie de dire, ouais, enfin, rien que quand il dit non, on n'a pas de inbox, on a une inbox, c'est pas une typo, ça veut dire important box, et t'es là. Ouais, ok, ok. Ah, c'est une inbox, quoi.
On n'a pas le Big Mac, on a le Big Mac.
Non, mais c'est ça. Donc, bon, après, tu as changé les règles de ce qui apparaît dedans et c'est intéressant. Mais...
Oui, ça,
c'est
rabat-joie.
Je pense que c'est un acteur assez intéressant qui va commencer à arriver. Normalement, l'outil sort en juillet, en ouvert, j'ai envie de dire. D'ici là, c'est que par invitation. Ça me rappelle Google Wave. Ah, je veux une invitation.
Ouais, Gmail, en son temps, c'était sur Invite.
Oui,
c'est
vrai. Mais t'en avais un paquet, quoi. Là, apparemment, t'en as pas tant que ça. Non, alors la vidéo est assez intéressante de voir un peu leur approche. Et ça, à la limite, les auditeurs, auditrices se feront leur idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça a lancé pas mal de débats dans la tech au-delà du produit. À savoir que DHH, un des co-créateurs, est rentré en guéguerre avec Apple par rapport aux règles de soumission de l'application dans l'App Store. Il y a aussi un autre truc, c'est que ils ont fait ça en web, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais c'est pas à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de single page application. Ils ont fait vraiment un site server-side rendering qui a l'air très performant, très léger. À mon avis, c'est du Ruby on Rails derrière, ils ont des turbolinks, etc. Et donc, bah, ça aussi, ça a lancé des petites tweetstorms parce que Bah, tu as Alex Russell de Google qui fait « Ah, mais tous les sites devraient faire ça, c'est hyper performant. Quand tu fais un client mail, tu vois, tu peux faire un truc simple. » Moi, je l'ai un peu poqué en mode…
Ils ont envahi tes mentions Twitter, en fait.
Ouais. Bah non, mais je me suis dit « Attends, là, on a un évangéliste Google qui nous explique que c'est pas si compliqué de faire des sites lightweight, même pour faire un client mail. » J'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir Gmail et de faire un screenshot de DevTools. Rien qu'au premier chargement, ça charge 3 megs de JavaScript. T'as envie de dire, vous bossez dans la même boîte. Et non, donc c'est un nouveau produit qui, en termes, rien que de fonctionnalité email, va faire un peu bouger les choses, je pense. En termes de pratique web, permet de réanimer pas mal de débats. Et puis, même en termes UX, il y a des choses intéressantes. Alors, j'ai vu des critiques sur l'accessibilité. On va voir comment ils vont évoluer. Mais voilà, à surveiller. La vidéo est un peu longue. Elle fait 35 minutes. Mais c'est assez intéressant.
Après, très personnellement. Auto-congratulation de c'est oui. Génial. On a sauvé le mail.
Niveau fonctionnalité, il y a quoi, en fait, de particulier par rapport à… Gmail,
c'est beaucoup de méta features autour des mails, de comment les enlever de ta face, comment choisir ceux que tu veux récupérer, mettre des annotations, les grouper.
Un peu comme Inbox, en fait.
Retitrer des trucs, un peu comme Inbox, ouais. Et moi, j'avoue que c'est du… Alors, pour moi, je vais donner un point de vue assez inocace, c'est le point de vue d'un organisateur de conf. Alors, j'avoue que pour recevoir les mails des gens qui essayent de communiquer avec toi, ça a l'air super. En revanche, je vois déjà le truc des gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas vu votre mail. » Et s'ils utilisent ça, je sais pas comment les aider, quoi. Sans rigoler. <Ouais. rire> Parce que, je sais pas, est-ce que tu as activé la feature de filtrage machin? Est-ce que tu as renommé automatiquement? Est-ce que tu l'as mis dans ton paper trail? Est-ce que tu l'as mis dans ton…
C'est ça.
Tu deviens support de A.com, quoi, en fait.
C'est un peu comme… Enfin, moi, je me souviens quand je suis passé de Gmail à Inbox, j'ai mis un peu de temps avant de me familiariser avec un ou deux trucs. Moi, très personnellement, ce qui me manque, c'est… J'aimerais bien savoir si ça peut être hébergé en France ou en Europe. Et je veux mon propre domaine. Et ça, au moins le propre domaine, c'est évoqué, mais ça mettrait un peu de temps. Savoir où c'est hébergé, comment c'est hébergé, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Mais pour répondre à ta question, Agathe, si tu veux pas te farcir la vidéo pour voir un peu les features, qui, à mon avis, la meilleure manière de comprendre le produit, ce qu'il explique quand même. Leur site web… Ouais. Leur site web liste avec un petit paragraphe de 2-3 lignes par feature ce qu'ils mettent en avant, et c'est un bon résumé.
Il y a plein de trucs que je trouve intéressants. Ce qui m'embête, c'est leur sauvegarde d'état, en fait. C'est-à-dire que tu mets quand même beaucoup de choses chez eux dans ce que tu fais, ouais. Ce qui fait et que potentiellement transférer ailleurs après…
Et pour l'instant, c'est pas juste a priori, d'état, ils n'ont pas de support IMAP ou autre. Donc, tu n'es même plus dans un email provider auquel tu peux accéder avec un autre client. T'es dans un SaaS, quoi. Enfin, ouais. Après, c'est pas les moins vertueux du monde, Basecamp, 37 Signals, en termes de lock-in et autres. Enfin, je leur fais plus confiance pour pouvoir extraire mes données que d'autres boîtes qu'on citera. Voilà.
Je vois. Bon, en parlant de boîtes à qui on peut faire confiance, le prochain lien parle de Mozilla. SOPS, je ne sais pas ce que c'est comme acronyme SOPS, et c'est un blog de chez nos amis de Hippon. C'est gérer ses secrets avec Mozilla SOPS.
Ouais, j'ai pris ce blog parce qu'il est récent, au moins ça permet d'avoir quelques infos en français récentes là-dessus. Après, Mozilla SOPS, ce n'est pas super récent, mais moi je l'ai découvert récemment. Je ne sais pas comment il était sorti de mon radar. Super.
Ouais, moi je ne connaissais pas.
Et c'est un outil vachement sympa, alors a priori que en ligne de commande, enfin en CLI. Et qui permet d'encrypter des secrets dans des fichiers de conf, donc de type env, vini, JSON, YAML. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'encrypter les valeurs à l'intérieur et de manière assez simple. Et donc, on peut mettre…
T'allais dire et pas les quoi ?
Et pas les clés.
D'accord.
Donc, en gros, quand t'as un YAML, tu peux garder toute sa structure. C'est la valeur qui va être… tu peux dire, je veux encrypter que la valeur de la clé de password dans ce fichier de conf et pas tout le reste. Ouais. Contrairement à souvent des systèmes de vault où tu vas encrypter tout le fichier. Enfin, voilà, il y a des alternatives à ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un serveur qui te fournit ça, ce n'est pas autre chose, c'est juste un outil d'encryption. Tu lui passes le fichier, tu lui dis ta clé GPG ou ça supporte d'autres mécanismes de clés d'encryption de provider cloud ou d'autres systèmes qui génèrent de l'encryption. Et ça a l'air extensible de ce point de vue. Et c'est assez léger. C'est embarquable facilement dans une chaîne de CI pour extraire des choses. On peut rajouter plusieurs clés GPG. Donc, on peut globalement encrypter un fichier avec une clé et rajouter la clé publique de tous les utilisateurs de l'équipe. Et du coup, les utilisateurs de l'équipe peuvent le décrypter avec leur propre clé GPG, donc ce qui est quand même assez intéressant. Alors, pour les utilisateurs d'équipe, ce n'est peut-être pas le use case le plus intéressant, mais dans un pipeline, ouais. Du coup, on peut avoir plusieurs étapes où ça peut être décrypté, mais pas ailleurs, quoi.
Et du coup, la clé de déchiffrement, c'est par... Ouais, tu vas me dire, si c'est du PGP, il y a clé privée, clé publique.
Clé privée, clé publique, ouais.
La clé privée, tu la mets quelque part sur le serveur ça...
Bah, tu la mets à l'endroit où tu veux pouvoir décrypter. Mais il faut que ta clé publique ait été rajoutée au moment. Non, mais voilà, mais je veux dire, il te gère pas ça pour toi. Mm-hmm. Tu passes en paramètre au moment de décrypter avec SOPS. Alors, ce que j'ai pas encore vu, parce que j'ai pas encore, pour l'instant, je l'ai utilisé rapidement en surface, c'est si c'est possible ensuite de décrypter avec autre chose que SOPS. Mais une fois que tu as la clé extraite, j'imagine que oui. Il suffit d'utiliser la même mécanique et que tu as la même. Si tu utilises PGP, par exemple, tu as sans doute moyen de le faire. D'accord. Mais bon, c'est déjà intéressant pour ça parce que tu peux mettre des fichiers de conf dans Git avec un secret encrypté, entre guillemets, mais pas perdre la structure complète. Quoi. Ouais. Mais surtout, c'est très rapide et il n'y a pas à installer un serveur pour le gérer. Y a pas, c'est vraiment ça, c'est sympa. Je ne sais pas s'il existe d'autres outils du même style en mode CLI, juste comme ça. J'en connaissais pas, moi, pour ma part. À part faire à la mano du PGP et faire du CAT. Et du...
Mais c'est forcément avec du YAML. Enfin, je veux dire, l'outil.
Non, t'as YAML, JSON, ENV. Enfin, t'as quelques formats qui gèrent. Il faut quand même qu'ils comprennent, j'imagine, un peu la structure de ce qu'ils modifient. Quoi.
Donc, l'outil bouffe un fichier de conf avec plusieurs formats supportés et te ressort le vrai avec les vrais mêmes.
Okay. Tu lui passes un. Alors, je ne sais pas. Ça ressemble plus ou moins, c'est pas non plus du JSON pass, mais c'est tu lui indiques la clé que tu veux encrypter avec une sorte de passe. Et tu peux aussi lui donner, par exemple, tout ce qui s'appelle password en dessous de tel élément de ton arbre, par exemple.
D'accord.
Donc, c'est pratique. C'est assez pratique, ouais.
Cool. Yes. Ben, en parlant de choses pratiques, lien suivant, BFG Repo Cleaner. Alors, je sais juste pourquoi BFG, c'était l'acronyme de quoi?
Moi, j'ai une idée, mais.
C'est très acronyme. Moi, je pense au BFG de Zoom, hein, pour moi. Zoom, hein.
Oui, voilà.
et donc, le BFG Repo Cleaner, moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est très pratique quand tu as des gens qui se plaignent, qui ne connaissent pas forcément très bien Git au départ ou les premiers commits où tu balances tout ton. Si tu fais du Maven, tu balances tout ton répertoire target dedans et puis ça reste dans ton historique. Et à chaque fois que tu fais un clone, tu récupères tout. Ou typiquement, tu as mis des secrets dans ton truc qu'il ne fallait pas mettre et tu ne veux pas les conserver dans l'historique non plus.
Ah, il propose ça comme une alternative à Git Filter Branch. Et quand tu vas voir sur la doc de Git Filter Branch, ils te disent « Alors, il ne faut pas l'utiliser parce que c'est très dangereux et que potentiellement, vous pouvez faire plein de conneries. »
C'est ça.
Parce que c'est Filter Branch, c'est très puissant. Historique, Git, en fait.
Ouais, c'est ça. En gros, tu vas réécrire ton historique puis tu vas écraser le repo remote. Donc, c'est bien pour une opération de maintenance ponctuelle, mais… Je pense au scénario typique chez Clever où les gens poussent leur repo Git et ils vont peut-être se plaindre que peut-être que le clone prend 20 minutes parce que finalement ils ont 1 giga dans le repo. Ouais. Parce que peut-être qu'au tout début du truc, il y a un mec qui a poussé un fichier vidéo dedans sans faire exprès. Et... Donc typiquement, ça permet de rechercher tous les fichiers vidéo dans l'historique en une commande et de les supprimer des choses comme ça, des choses un peu plus subtiles. Mais moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour enlever des binaires de grosse taille. On peut aussi spécifier la taille maximum des fichiers. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est assez rapide. C'est pas plaisant d'y faire. Il faut même se faire tous les.
À 720 fois plus rapide.
Je crois que le cadre d'usage est gardé. Ça dépend de ce que tu fais. En plus.
Ça dépend de ce que tu fais. Bah, c'est assez courant en fait dans tous les endroits où tu dois faire une CI. Et que tu n'as pas envie de commencer à réfléchir à comment faire ma shallow copy et mon machin pour pouvoir récupérer que les choses qui m'intéressent. Bah là, tu peux au moins nettoyer ta copie, quitte à récupérer un vieux repo et que tu veux nettoyer par exemple certaines choses et puis le repousser correctement pour pouvoir avoir une CI efficace, c'est quand même vachement pratique.
Donc, tu disais, Agathe,
que le cas, je sais que récemment sur le support, il y a eu un problème du genre, un repo qui était beaucoup trop gros en fait, quelqu'un a repoussé, je ne sais plus quoi.
On rappelle que les stockages objets, c'est cool.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça aide pour ça. Ouais.
Et dans la série trucs cool et rigolo, Microsoft propose de la nested virtualisation.
Comment ça marche?
Entre autres choses.
Entre autres choses. Alors, c'est que du AMD pour l'instant, c'est pas du Intel, malheureusement pour nous. Mais...
C'est Intel, c'est déjà supporté, c'est AMD qui n'était pas supporté, et maintenant c'est le cas.
Exactement. Cool. Exactement. Ils ont rajouté le support d'AMD sur Hyper-V, en fait, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc Hyper-V,
c'est quoi?
C'est l'hyperviseur de Microsoft, enfin de Windows.
Ouais. D'accord.
Donc c'est le Zen de Windows, tu vois.
C'est ça. Et donc là, bon, là, j'ai regroupé dans les show notes avec plusieurs articles différents où on sent que du côté de Microsoft, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur de la virtualisation dans la virtualisation de la virtualisation. Bon, il n'y a pas que chez eux, hein, on dira, parce que je parlais du fait que ça fait partie. Non, bon, bref. Hein,
on... Non, mais on peut dire que c'est sur notre roadmap aussi, tu vois.
Ça fait partie, oui, bah oui, puisque.
Tu veux dire ce truc qui, avant la sortie du film Inception, on appelait la récursivité?
il y a un peu de ça.
C'est ça.
Mais effectivement, faire tourner Clever, actuellement, il faut du bare metal parce que la nested virtue n'est pas très répandue. Et le jour où la nested virtue est répandue, on n'a plus besoin de bare metal. Quand on peut apporter notre couche de virtue directement dedans, ça fonctionnerait.
Alors, la nested, c'est pas quelque chose qui est super récent. En revanche, bah, y a plein de couches intermédiaires sur lesquelles tu peux faire tourner. Et là, justement, avec l'introduction de WSL2, je crois qu'il a déjà été évoqué dans les épisodes précédents.
Oui, absolument.
Donc, Windows Subsystem for Linux, c'est ça.
C'est ça, yes. Et qui maintenant n'est plus, on va dire, pour faire très grosse maille, n'est plus une émulation, mais est justement une forme de virtualisation et de pass-through de ressources de l'OS en dessous, pour dire très grosse maille. Du coup, ils font plein d'expérimentations, et notamment un tweet d'un gars des équipes chez Microsoft qui a fait tourner un macOS X Catalina sur KVM dans Ubuntu, dans WSL. Donc et du coup bah en effet bah, avec
ça reste plus simple qu'un triple boot.
Alors après c'est un cas d'usage assez qui peut paraître ubuesque mais pas forcément tant que ça.
Pour avoir fait un triple boot sur un Mac à une époque, au final tu ne bootes jamais sur les deux autres. Enfin, c'est... Alors que là, tu as tout dans la même chose, c'est quand même plus pratique. Quoi.
C'est ça. Puis même pour du testing, si jamais tu développes une app pour plusieurs OS, enfin, tous les intérêts de la virtu. Après, le cas là est un peu, voilà, il est un peu tordu de faire tourner du Catalina dans Ubuntu, dans le WSL qui lui-même est dans Windows, dans le machin.
Ouais, mais tu peux le faire.
Mais tu peux le faire, c'est ça. C'est comme faire tourner.
Il faisait quoi à la fin, Hello World
ou Doom sur une
app? Non, il fait vraiment tourner. Là, il fait vraiment tourner macOS Catalina, l'OS complet, quoi. Donc, t'as les applis dedans qui tournent. Donc, je vous invite à aller voir le tweet. Il a une petite vidéo, il le montre. Et mais après, on sent qu'ils mettent le collier là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses d'amélioration. Des choses que j'ai mis aussi dans les show notes sur. Le support maintenant sur VMware Workstation, quand il y a Hyper-V qui tourne, ça ne crache pas, c'est-à-dire que ça ne bloque pas. Parce qu'avant, quand on activait Hyper-V, VMware Workstation, c'était mort. Donc, ils ont réussi à régler ce problème. Donc, on sent, comme tu disais tout à l'heure, Microsoft, tout est cloud, tout est machin, mais surtout virtu, en fait. Hein. Donc, la virtualisation, on sent bien qu'ils mettent le collier là-dessus. Dans l'OS, on va dire, pour tous les utilisateurs, mais sans doute derrière avec des idées de leurs implèmes cloud derrière et d'avoir des code base communes pour tout ça. Quoi.
Ouais, et j'ai trouvé ça rigolo, il y a un des articles qui dit « Et maintenant, plus besoin de s'embêter avec des conteneurs, vous pouvez faire des VM. »
C'est ça.
Mais dis donc.
Comment dire,
copier. J'ai entendu ça quelque part.
Voilà.
Copyright croisade.
C'est exactement ça. Voilà, enfin, cette fois, c'est pas nous. Hein,
C'est ça. Et donc, voilà, donc il y a beaucoup de collier là-dessus. Et donc, c'est avec tous ces nested virtualization et ainsi de suite, il y a un des problèmes notamment qui peut se poser, c'est le fait de révéler beaucoup de choses sur ce qui se passe en dessous, sur des adresses utilisées par les kernels et ainsi de suite. Ça peut avoir des impacts pas seulement sur ce qui est hosté, mais sur ce qui le host. Et là, il y avait un article intéressant justement sur Foronix dont on parlait tout à l'heure. Donc, Foronix qui est un. Je ne sais plus si on l'a évoqué là depuis le début du.
Non, Foronix, c'est un.
C'est quoi Foronix?
Vas-y. Ouais, c'est un site de news, Unix hardware, Linux, kernel et ainsi de suite. Donc, qui fournit beaucoup de news tous les jours et des benches aussi sur les nouvelles versions de kernel, sur tout le hardware qu'il y a autour, les nouveaux processeurs, ainsi de suite. Donc, énormément de boulot et qui est assez intéressant si vous voulez suivre ces sujets-là.
Ouais, c'est la référence dans ce, enfin c'est une référence dans ce cas, et c'est vrai qu'ils passent leur vie à faire des benches, c'est assez impressionnant.
Et donc là, il y a un outil, c'est vrai que pour utiliser pas mal Linux, que j'utilise souvent entre guillemets en tant que power user, c'est DMessage, qui permet DMESG, donc qui permet d'accéder aux messages de boot du kernel, en gros, enfin de l'OS. Et donc il y a la problématique de restreindre cet accès pour les utilisateurs non power users, ce qui dans l'essentiel des distros n'est pas le cas du tout. Et donc là, Ubuntu commence à le considérer. C'est venu avec un input de Clean Linux, qui est celle de la version de Intel, si je ne m'abuse. Et donc, il y a, comme ça, au fur et à mesure, les distros commencent à inclure ça. Ça fait partie des options de compilation de kernel. Donc, si vous compilez votre propre kernel, c'est une option que vous pouvez mettre pour que le DMSL ne soit pas visible en dehors des utilisateurs privilégiés.
Puisqu'évidemment, tout le monde compile son propre kernel.
Évidemment.
Oui.
Évidemment,
tu vois là, c'est un peu, c'est un peu le Z-index, tu vois. Il y a... Là, quand tu parles de ces trucs-là, je suis là. Ah ouais, je sais que ça existe, mais.
Oh. Ouais, bon, enfin, DMSH, en gros, quand tu as des problèmes hardware sous Linux, tu vas vite regarder là-dedans. Bon, il y a plein d'autres manières de voir ces options-là, mais ça permet de voir quels ont été les problèmes. Déjà, si au démarrage, ça n'a pas détecté ton hardware Intel ou autre.
C'est ça, si tu as déjà débugué un Xorg qui fait la tronche ou une carte Wi-Fi qui dit non ou des choses comme ça, bah, tu es content d'avoir des messages.
Récemment, moi, c'était mon touchpad qui marchait plus, enfin qui marchait jusqu'au moment où tu te loguais. Et j'ai réussi à l'oublier grâce à ça.
Ça ne parle pas de l'enlever, hein. C'est juste qu'il faudra être root ou avec les droits, des droits équivalents pour pouvoir le voir, ce qui n'est pas déconnant non plus. Parce qu'en tant qu'utilisateur standard, ça ne devrait pas forcément.
Yes. Et ensuite, on finit sur une note plus moins logicielle et plus hardware pour boucler la boucle. Tu nous as posté un lien de Laptop Spirit sur la nouvelle génération de processeurs Intel.
Ouais, bah en tant que nouvel arrivant chez Clever, j'ai regardé des laptops récents et tout ça. Donc j'ai regardé un peu le hardware. Bon, ça, c'est pas sur les récents puisqu'il s'est pas encore sorti. Mais donc il y a sur les derniers processeurs Intel Lakefield, en fait, il y aura la possibilité de supporter jusqu'à 4 écrans en 4K, ce qui en termes de support graphique est complètement fou, mais juste avec le chipset.
Tu peux faire du 16K avec le Intel intégré.
Donc là, ils ont une archi. Alors je vais pas faire leur pub marketing, mais ils ont une archi à plusieurs dimensions physiques qui leur permet d'intégrer maintenant des features additionnelles. Il y a 5 CPU, dont un principal plus sizé que les autres. Et du coup, le traitement graphique va être beaucoup plus optimisé. Bon, ça, c'est le marketing des trucs. Mais en pratique, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si quelque chose peut, de manière confortable, gérer jusqu'à 4 écrans 4K, du coup, ça veut dire que le support d'un seul écran déjà à l'extérieur, ça va beaucoup mieux se passer. Quoi.
Oui. Moi, je suis assez sceptique sur le TDP du truc. Est-ce que ça va chauffer vraiment, vraiment de ouf? Parce que déjà là, moi, avec un 4K... j'ai des pointes à 90 degrés, tu vois. Alors que quand je débranche, tout va bien. Donc ça chauffe.
Ça, c'est leur argument. Il faudra attendre les premiers benchs. Il y aura sans doute des premiers benchs sur Foronix à un moment ou à un autre là-dessus. Mais leur argument, c'est
qu'ils ne font pas leur bench en mouvement. Ouais.
Mais à l'heure actuelle, c'est quoi la limite niveau écran sur un chipset?
Sur les générations précédentes, ou actuelles, celles qui sont actuellement disponibles, c'est jusqu'à 3.
D'accord.
Donc, ça rajoute un écran de plus. Alors, pas forcément en 4K, mais au moins jusqu'à 3 écrans par le chipset. Hein. Oui, parce qu'après, il faut aussi qu'il y ait des connectiques qui vont bien. Que, voilà.
Ça, tu parles en 60 FPS ou...
Alors, après. 60
Hertz. Ouais, pardon.
Ouais, après, la fréquence, ça, c'est, j'avoue que j'ai pas regardé spécifiquement, mais je pense que c'est la base au moins.
Yes. Eh bien, écoute, nous verrons. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Comme chaque fin de podcast, c'est l'heure du choix musical. Je suis tout en haut de ma fenêtre Zoom, donc je serai de 1 à 5. Comme ça, si je refais un échec critique, ce sera encore moi. Si je fais un succès critique, ce sera Agathe. Et au milieu, nous avons Hubert et Pag. C'est parti. Et j'ai fait un 20. C'est donc Agathe. Qu'est-ce que tu nous as choisi?
Alors, c'est une musique du Doom de 2016. C'est un peu la plus connue du jeu. Voilà, c'est du bon métal bien bourrin.
Mais c'est par BFG Division, pour reboucler sur l'article de Dig Filter.
Vous pouvez l'utiliser en nettoyant vos repos Git.
Exactement. Eh bien, merci à vous et on vous dit à la semaine prochaine.
Normal, à la semaine prochaine.
Bisous tout le monde.